8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. En tant que parents, êtes-vous plutôt du genre punition ou discussion ou un peu des deux ? En France, le débat entre les partisans de la parentalité positive ou d'une éducation plus stricte n'est pas nouveau, mais il revient aussi dans un climat social tendu, alimenté par des politiques qui dénoncent la crise de l'autorité parentale. Alors comment se faire respecter tout en étant bienveillant ? Comment réagir en cas de colère de son enfant sans perdre ses nerfs ? Et si on arrêtait aussi de culpabiliser les parents en les jugeant trop laxistes ou trop autoritaires, car il n'y a pas forcément de mode d'emploi pour être un parent parfait, sinon ça serait. On en parle avec vous qui nous écoutez, nos invités. Bonjour Isabelle Filioza.
Bonjour, bonjour à tous et toutes.
On vous présente comme la papesse de l'éducation positive en France, psychothérapeute du courant humaniste, conférencière, autrice du livre « Éduquer, tout ce qu'il faut savoir », c'est chez Robert Laffont avec en sous-titre « Ni laxisme, ni violence, les clés de l'éducation positive » parce que, c'est, pour reprendre un titre d'un précédent livre, il n'y a pas de parents parfaits, hein.
C'est clair. Et la recherche de perfection, même si de nos jours, à cause des réseaux sociaux, etc., elle est extrêmement forte partout dans tous les domaines, pas seulement dans la parentalité, cette recherche de perfection, parents. En fait, elle nous éloigne de nous-mêmes et elle nous éloigne de nos enfants. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée.
Et bien voilà, on en reparlera. À vos côtés, Héloïse Junier, bonjour.
Bonjour.
On vous surnomme aussi la psy-contre-attaque, hein, c'est votre pseudo sur les réseaux.
Exactement.
Hein. Docteur en psychologie du développement, formatrice pour les professionnels de la petite enfance et co-autrice avec mademoiselle Caroline de la BD Les émotions de l'enfant, 7 jours pour mieux les comprendre, c'est aux éditions Les Arènes, parti pris d'ailleurs d'une BD plutôt ludique, hein, le but du jeu aussi c'est peut-être de dédramatiser aussi.
En fait, le but du jeu, c'est de mettre à disposition des parents toutes les recherches qu'on a sur l'enfant, de manière ludique, avec des dessins effectivement hyper attractifs, très sympas, qui font, généralement font plaisir aux parents et aux professionnels qui lisent. Ouais.
Voilà, pour éviter le burn-out parental,
exactement,
on en reparlera. Et vous, bien sûr, qui nous écoutez, si vous vous sentez dépassé par vos enfants ou vos élèves, on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins
et de voisines.
8 milliards de voisins. Et la planète se parle.
8 milliards de voisins.
Pour commencer, peut-être pour éclairer rapidement nos auditeurs, parce qu'on en parle beaucoup en France de cette polémique, dans laquelle d'ailleurs vous êtes particulièrement visée, hein, faut le dire, Isabelle Filioza. Il y aurait en ce moment, enfin c'est pas nouveau, deux camps, deux clans, l'éducation positive que vous représentez et une éducation plus stricte avec des punitions qui est incarnée par la psychanalyste Caroline Goldman, qui notamment vous reproche une vision trop laxiste de l'éducation. Déjà, comment vous comprenez ce débat-là qui revient en force, qui est plutôt un vieux débat, non ?
Je ne sais pas si c'est vraiment un vieux débat, et c'est surtout un débat dans les médias, ce n'est pas forcément un débat sur le terrain. Mais c'est vrai que, du coup, ça a pris un peu fort dans les chaumières, parce que la France est quand même encore massivement dans l'autoritarisme. On crie à la perte de l'autorité, mais c'est totalement faux. Dans la réalité, les études montrent que plus de 80% des parents sont très autoritaires, et non seulement sont très autoritaires, mais utilisent des violences dites éducatives, mais c'est quand même des violences éducatives ordinaires, pour faire obéir les enfants.
C'est quoi ces violences éducatives autoritaires ? C'est quoi ?
Eh bien, c'est donner une petite tape ou plus, c'est insulter, c'est dévaloriser, c'est mettre au coin, c'est punir, c'est isoler l'enfant, c'est se mettre dans ce qui ne va pas permettre à l'enfant de développer ses compétences émotionnelles. Parce qu'en fait, la parentalité positive, hein, c'est pas seulement ce qu'on fait pas, c'est aussi ce qu'on va faire. C'est comment on va enseigner à l'enfant à bien se comporter et comment on va l'aider à réguler ses émotions. La régulation émotionnelle, c'est essentiel. La régulation de la frustration, la tolérance à la frustration, tout ça c'est essentiel, ça fait partie de l'éducation. Et donc l'éducation positive, c'est comment éduquer justement, donc fournir à l'enfant les moyens de réussir à s'intégrer dans la société, les moyens de respecter les règles, les moyens de pouvoir répondre aux enjeux qui sont les siens.
Héloïse Juny, vous réfutez ou pas ? Vous vous reconnaissez dans la notion d'éducation positive ?
Ah oui, complètement. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec ce que vient de nous dire Isabelle. Et j'ai envie même d'ajouter que, en fait, ce débat-là, il a eu dans les médias en France, mais il n'y a aucun débat dans la recherche scientifique. Dans les études scientifiques qu'on mène sur l'éducation, il n'y a même pas de débat. C'est vrai que l'éducation dite non-violente, qu'on appelle positive, qu'on va appeler aussi démocratique, certains auteurs, ça dépend de l'appellation, varie selon les personnes, mais en fait, effectivement, on voit dans la recherche que quand l'enfant est éduqué de manière non-violente, c'est-à-dire que quand on pose un cadre sans lui créer
dessus, il faut des cadres,
sans taper,
ouais, ça n'empêche pas le non-cadre, bien sûr.
On ne laisse pas arracher les jeux de sa sœur, on ne laisse pas gribouiller dans l'œil du feutre rouge le mur de salon, on ne laisse pas faire tout ça. Mais comment on pose le cadre sans violence ? Et justement, les études nous montrent que quand on arrive à poser ce cadre sans violence, et c'est pas facile quand on n'a pas été élevé comme ça, il y a moins de problèmes de comportement, il y a moins d'enfants en rapport de force, il y a moins d'anxiété. Donc, effectivement, dans la recherche, c'est pas du tout un débat, en fait. Mais c'est un débat encore dans les médias, parce qu'en France, chez nous, le terrain et les médias sont assez déconnectés de la recherche scientifique.
Alors, en même temps, ce qui fait aussi beaucoup jaser et qui divise, et vous l'avez un petit peu évoqué, c'est cette pratique-là qu'on appelle du time-out, qui consiste, voilà, pendant 5 minutes, à isoler un gamin, pour le punir ou qu'il fait une grosse colère. En fait, c'est le côté... c'est le côté genre file dans ta chambre, quoi, ou va au coin. En quoi, pour vous, ça, c'est des mesures régressives ? Parce que honnêtement, soit on l'a peut-être déjà tous fait à notre môme, ou on l'a reçu sans que ce soit totalement traumatisant.
C'est pas une question d'être traumatisant ou pas traumatisant. C'est vrai que c'est stressant, pas forcément traumatisant. Mais est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est efficace ? On l'a retiré, cet interdit en France dans les écoles d'envoyer un enfant au coin, de l'envoyer au piquet depuis 1887. Donc c'est quand même très très ancien. Et pourquoi on l'a interdit ? Parce que c'est inefficace et contre-productif. La punition de manière générale est contre-productive parce que punir, c'est enseigner à avoir peur de l'adulte, c'est enseigner à avoir honte et ça n'enseigne pas un nouveau comportement. Donc, de manière générale, quand un enfant est puni, il ne se met pas à réfléchir « Ah, pourquoi j'ai fait ça ? Il faudrait mieux que je prenne mes responsabilités. » Non, évidemment, il se dit « Comment arrive, je vais faire pour ne pas me faire punir la prochaine fois ?»
Certes, mais quand on est totalement dépassé, puis on va en avoir des témoignages d'auditeurs. Bah tiens, allez, on va écouter justement le témoignage d'un auditeur voisin qui a besoin de vos conseils à ce sujet. On l'écoute.
Je m'appelle Pacom, je suis à Lille, dans le nord de la France. J'ai un garçon de 4 ans. Mais il a des difficultés à s'exprimer. Déjà, il parle difficilement. Mais le souci, c'est qu'il fait régulièrement des crises de colère. Et il est complètement ingérable. Je ne sais pas comment faire. Le punir, par exemple, le priver de goûter ou l'envoyer dans sa chambre. Mais ça ne change pas, ça ne change rien. Quand il veut vraiment te mettre debout, il le fait proprement. Et le pire, c'est qu'à l'école aussi, c'est pareil parce qu'il est à la maternelle. Mais quand il y a des sorties, les encadrants ne le prennent pas et parce qu'il fait des crises de colère et il est complètement ingérable. Et il se roule au sol et tout. Du coup, je ne sais pas comment faire pour le gérer. Je ne sais pas comment faire pour essayer de gérer cette colère-là, cette crise de colère. Merci.
Merci surtout à vous. Alors, quel conseil on peut donner à Pacôme, qui est dépassé par les colères de son enfant, qui dit qu'il a des problèmes aussi pour s'exprimer ? Et c'est peut-être aussi la clé, je ne sais pas, Isabelle Filiosa.
Ah oui, c'est tout à fait la clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet enfant peine à s'exprimer, c'est naturel que sa seule façon de s'exprimer, c'est de partir en crise de colère. Donc, ça n'est pas les crises de colère que nous avons à gérer. Pour gérer ces crises de colère, on va entourer l'enfant, lui fournir de la réassurance, lui donner de la sécurité et lui dire « Je vois combien c'est dur et combien tu es envahi et combien tu n'arrives pas à dire ce que tu voudrais et je vais t'aider. » Mais c'est vraiment important de consulter là. Manifestement, cet enfant a un souci et donc c'est important de savoir d'où vient ce souci. Est-ce qu'il est trop face aux écrans ? Est-ce qu'il y a un diagnostic derrière de TDAH ou autre ? Un diagnostic de difficulté d'élocution ? Il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent pour lui qui l'empêchent et de parler et de communiquer et de pouvoir réguler ses impulsions.
Il y a toujours un sens ou pas, Héloïse Junier, aux colères. Vous vous dites aussi qu'il faut arrêter avec la notion de caprice. On dit souvent que les enfants peuvent faire des caprices. Enfin, oui. Ce qui peut sembler être le cas à vue loin quand on va priver un enfant, je ne sais pas, d'un jouet ou d'un gâteau, il se met à hurler et puis dès qu'on lui donne, tout va mieux. Ce n'est pas un caprice pour vous ?
Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a tendance tous, quand un enfant est en colère, à diaboliser l'émotion de colère. Genre même la colère, c'est l'une des émotions les plus diabolisées. On va parler de caprice, de provocation, de comédie, il y a plein de mots, on est très créatifs d'ailleurs, parce que cette colère nous énerve beaucoup.
Pourtant, les Français sont assez colériques.
On est tous colériques. C'est vrai que la colère, en fait, quand on regarde un peu la colère vraiment du point de vue scientifique, c'est une émotion qui est utile, qui a une fonction, qui sert à quelque chose et qui est naturelle, qui est saine. Et en fait, déjà, je pense que du point de vue des familles, des professionnels, le principal objectif déjà, c'est de dédiaboliser la colère et de la voir comme une émotion qui est saine. Et quand l'enfant est en colère à l'instant T, ne pas lui reprocher, c'est vachement dur.
Quand on rentre du boulot, qu'on est fatigué et que là on se dit attendez,
je suis même très vénère.
C'était très intellectuel tout ça, mais là on n'en peut plus.
Le plus dur, en fait, quand un enfant est en colère devant nous, le plus dur vraiment c'est de rester calme soi-même. Ouais. D'ailleurs, j'ai souvent en famille, si vous arrivez à rester calme à l'instant T, c'est que vous avez fait 99% du job. Et une fois que le pic de colère, quand l'enfant est en pic de colère à l'instant T, on ne peut rien faire de toute façon. Parce qu'en fait, il est en pic de colère, c'est très compliqué, il n'est pas réceptif à ce qu'on peut lui proposer. Mais dès qu'il redescend un petit peu, là on va pouvoir commencer à recréer du lien avec l'enfant et mettre des mots sur ce qu'il a ressenti. Mais ce qui est sûr, dans les recherches, on voit bien et sur le terrain, ça le confirme, c'est que les punitions, quand on est en colère, vont augmenter la fréquence et l'intensité des colères. Donc c'est vraiment, comme disait Isabelle, c'est vraiment contre-productif. Et c'est difficile, parce qu'on a toute cette culture de la punition, mais on se tire une balle dans le pied, en fait.
Allez, on continue à parler éducation positive ou plus stricte avec vous. Et bien sûr, vous nous appelez, vous nous appelez à RFI. On se retrouve après Mounia et ce titre Sweetie.
I know how you feel.
ligne avec Sweetie, une sélection de RFI Musique. Dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle de parentalité bienveillante ou d'éducation plus stricte. Quelle attitude pour adopter, pour faire face aux émotions de son enfant? On en parle avec nos invités Isabelle Filioza, psychothérapeute et autrice du livre « Éduquer, tout ce qu'il faut savoir » chez Robert Laffont, et Héloïse Junier, docteur en psychologie du développement et co-autrice de la BD « Les émotions de l'enfant, 7 jours pour mieux les comprendre » aux éditions Les Arènes. Et puis on attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Et nous avons un appel de Lewis à Lubumbashi en RDC. Bonjour Lewis.
Bonjour Laurence.
Merci d'être avec nous Lewis. Alors vous, vous êtes papa de plusieurs enfants, dont un fils de 12 ans. Et voilà, pour préparer cette émission, vous nous avez confié qu'il était assez turbulent. Ça se manifeste comment Lewis?
Bon, au fait, il est très agité, c'est-à-dire il a du mal d'abord à se reposer, c'est-à-dire quand il n'a pas des choses à faire en tant qu'enfant, alors il ne se repose pas, il provoque facilement ses camarades à l'école, même en famille, c'est presque le même comportement.
Les provocations comment alors?
Allô?
Oui, donc il est un peu hyperactif, et il provoque comment? Avec quels mots il provoque? Vous dites qu'il provoque, c'est-à-dire?
Bon, même par des gestes, c'est-à-dire par exemple, il peut voir son ami, son camarade qui est devant lui, bon, il essaie un peu de les tacler par derrière, par exemple, ou bien même avec des mots dans les échanges.
Ouais, et du coup, il forcément, j'imagine qu'il s'isole un petit peu, ou alors que ça provoque des clashs avec ses copains.
Oui, ça crée un peu des tensions avec ses copains, et des fois, il y a même des bagarres.
Ah, des bagarres. Et à la maison, comment ça se passe? Vous faites comment, Lewis, en tant que papa, alors? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des punitions, pas des punitions? Comment vous faites?
Bon, en tant que parent, je prends le temps de les conscientiser, c'est-à-dire de les conseiller. Et je ne les tape pas, mais je lui parle parce que c'est déjà un grand garçon. Donc je lui parle pour qu'il s'améliore, qu'il change son comportement. Question de mettre les autres à l'aise, mais aussi question qu'ils se sentent à l'aise parmi les gens.
Oui, ouais, je comprends. Quelle question vous vouliez peut-être poser à nos invités qui sont des expertes de la petite enfance? Quelle question vous voulez leur poser, Lewis?
Oui, face à cette situation, bon, je me vois un peu désespéré, pour ne pas dire découragé. Alors, voudrais demander leur aide. Quels conseils me donnent-ils pour pouvoir bien les gérer?
Alors, Isabelle Filioza, je commence par vous.
Je comprends que vous soyez vraiment très démunis parce que, en fait, ça n'est pas un problème d'éducation. Très probablement, c'est soit un problème médical, soit il y a eu un traumatisme à un moment et donc cet enfant a un comportement qui reflète quelque chose. En fait, on voudrait qu'il change de comportement, mais il ne peut pas changer de comportement. Ça n'est pas sous son contrôle. Manifestement, vous dites qu'il a le même comportement en famille, à l'école. Il a l'air de ne pas pouvoir gérer ses impulsions, son impulsivité, ses relations avec les... Tout ça est trop compliqué.
Problème médical, ça veut dire quoi? Par exemple, hyperactif ou...
Par exemple, peut-être un trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. C'est possible. On ne peut pas poser un diagnostic comme ça. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller voir quelqu'un.
Vous avez pu consulter quelqu'un ou pas Lewis d'ailleurs ou pas encore?
Non, jusque-là pas encore.
Voilà, parce qu'en fait le comportement c'est pas quelque chose qu'on doit ôter, changer. On peut pas changer le comportement. Le comportement c'est un message. C'est comme si il était en train de dire regarde papa, ça ne va pas. Regarde papa, je vais mal. Regarde papa, j'ai des besoins. Regarde papa. Et donc nous, notre job de parents, c'est de dire oh, je vois qu'il y a un comportement débordant là. Ce que tu fais, ça va pas du tout. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle. Tu as besoin d'aide. Je vais t'aider. Et donc, l'aide, elle peut être soit médicale, soit psychothérapeutique. C'est-à-dire peut-être que l'enfant réagit à un traumatisme. Je ne connais pas l'histoire de cet enfant.
Pas forcément évident de trouver des psys à Lubumbashi.
Mais comprendre ce qui s'est passé, en tout cas.
Quel conseil vous pourriez donner à Louise Junia-Lewis?
Alors déjà, effectivement, comme on dit précédemment, mais ses comportements sont manifestement le signe d'une difficulté, d'une frustration, d'une souffrance qu'il est en train de traverser. Alors déjà, je pense que, rappeler le cadre, voilà, c'est interdit d'agir ainsi, c'est interdit de faire mal à l'autre, que ce soit avec des mots, avec des gestes. C'est important de le faire, hein, même si j'imagine très bien que vous le faites naturellement. Et puis aussi, donc, dans un deuxième temps, on peut aussi sensibiliser votre enfant à ce que ressent l'interlocuteur. Par exemple, quand il agit comme ça avec le copain en face de lui, qu'est-ce qu'on lui demande? Mais à ton avis, qu'est-ce qu'il ressent, l'autre, quand tu lui dis ça? Qu'est-ce qu'il ressent, en fait, dans son corps, dans sa tête, quand tu fais ça, à ce geste-là avec lui? Et puis, on pourrait aussi apprendre à votre enfant comment exprimer qu'il n'est pas d'accord, exprimer son émotion, mais autrement qu'en tapant ou autrement avec des mots qui blesse. Et ce qui marche bien, je trouve, c'est souvent ce que je conseille aux familles, c'est de faire des jeux de rôle à la maison.
Des jeux de rôle.
Ouais, genre par exemple, là, t'es pas d'accord, t'es très en colère, il t'énerve beaucoup cet autre enfant, mais comment tu vas lui dire ça? Tu peux dire, je ne suis pas d'accord, mais vas-y, on le joue ensemble, on le fait. Genre, là, tu m'as dit ça, ça m'a fait mal. Moi, je préférais que tu me dises ça, ça me fait moins mal. Et en fait, on va développer ces compétences qu'on appelle dans la recherche sociale et émotionnelle. Donc, en fait, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'être en souffrance, mais on n'a pas le droit de faire mal aux autres. C'est une limite à ne pas atteindre. Mmh, mmh. Donc, bon, après, ça, c'est théorique, mais c'est que plus on le fait régulièrement, donc la compréhension de ce que ressent l'autre avec des jeux de rôle très pratico-pratiques, ça a tendance à recréer du lien entre l'enfant et l'adulte et du coup à recréer du lien entre l'enfant et le groupe d'enfants avec qui il est en difficulté. Quoi.
Lewis, peut-être une expérience à tenter à la maison, des jeux de rôle, non? Pour tenter de déminer ce qui ne va pas avec votre fils?
Oui.
Pourquoi pas, hein? À essayer.
Sans oublier
Allez, à essayer.
Sans oublier qu'il a probablement, puisqu'il est quand même très turbulent et agité, et donc il a probablement un cerveau qui fonctionne légèrement différemment, et donc on peut lui enseigner, voir comment ça fonctionne ton cerveau, on va essayer de découvrir ensemble, et tu vas voir comment, quand tu as une impulsion à faire quelque chose, comment est-ce que tu peux faire pour réguler, etc., et on va s'entraîner.
En donnant des exemples peut-être concrets, quoi, à faire ensemble. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas, Lewis, du côté de la RDC, et là, on part au Sénégal.
Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
8 milliards de voisins,
on n'est rien sans l'autre.
Et là, nous sommes en ligne avec Omar, qui est enseignant en école primaire à Bakel, au Sénégal. Bonjour Omar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est peut-être l'heure de la récréation. Alors, j'ai vu que vous avez 109 élèves dans votre classe.
Oui, oui, c'est bien ça.
C'est énorme.
Ouais.
Ouais, c'est incroyable. C'est lié quoi? À un manque d'enseignants, c'est ça?
Voilà, on a un déficit d'enseignants.
Eh oui.
Voilà, j'ai pris la classe, quoi.
Alors dites-moi, comment on fait avec 109 élèves? Bon, j'imagine déjà que le niveau sonore, ça doit être quand même assez élevé, non?
Pardon?
J'imagine que le niveau sonore avec 109 élèves, ça doit pas être évident, non?
Non, c'est très très difficile, hein.
Ouais.
Alors, c'est avoir du pain sur la planche.
Du pain sur la planche, ça c'est plus que sûr. Alors dites-moi, comment vous faites avec autant d'élèves, à la fois pour enseigner, pour faire respecter quand même le silence malgré tout? Comment vous faites? Comment vous y prenez? Est-ce qu'il y a des sanctions, des punitions? Est-ce que vous êtes dépassé? Comment vous faites?
Voilà, je fais presque toutes les formes, toutes les astuces pour gérer un bon climat. Parfois, les punitions, il suffit d'isoler l'enfant.
D'isoler l'enfant, c'est-à-dire que dans ces cas-là, vous le mettez à la porte de la classe, non? Comment ça se passe?
Voilà, donc il va se mettre au devant de tout le monde. Il est assis seul, il est isolé. Maintenant, s'il s'agit de faire les exercices, il participe à faire les exercices, mais tout en restant coupé de ce monde.
Oui, oui, c'est ça.
En plus, encore, il y a l'éducation qui est un peu sentimentale, on hommage à Flaubert.
L'éducation sentimentale, j'ai pas bien compris.
Et oui, oui, l'éducation sentimentale, parfois j'ai des sentiments pour ces gosses, pourquoi ne pas les frapper, il faut les laisser, c'est des petits enfants, essayer de négocier avec eux, c'est ça.
Ouais, ça vous touche quoi. Et vous arrivez, vous n'avez pas le temps, enfin je ne sais pas comment ça se passe, mais vous mettez en contact avec les parents pour savoir éventuellement pourquoi, parce qu'il y a souvent des élèves, c'est toujours les mêmes qui ont des problèmes de discipline.
Vous savez, ici, le problème en Afrique, quand on amène l'enfant à l'école, maintenant, le parent a fini avec sa tasse. Pour lui, c'est l'école qui doit tout faire pour l'enfant. Ouais. Alors que l'éducation de l'école est soutenue par celle des parents à la maison.
Mmh. Oui, bien sûr. Alors, vous ne pouvez pas régler toutes les solutions.
J'ai entendu une phrase, les invités, l'une des invitées a dit que, je ne sais pas, le comportement, c'est un message.
Le comportement, c'est un message. Ouais.
C'est un message. J'aime beaucoup cette phrase-là.
Est-ce que vous vouliez poser d'ailleurs une question à nos spécialistes qui sont là à Paris?
Oui, j'aimerais poser une question. Je voudrais, quelles sont les astuces que vous pouvez me donner pour mieux gérer la discipline dans la classe? Parce que je rencontre d'énormes difficultés.
Alors, est-ce que vous avez des astuces à proposer à Omar, alors, pour gérer ces 109 élèves, hein, c'est énorme. Isabelle Filioza?
Eh bien, d'abord, on a réalisé qu'une personne face à 109, ce n'est pas possible. Donc, on va plutôt travailler sur l'autodiscipline. Comment je peux faire pour leur enseigner l'autodiscipline? L'autodiscipline, ça veut dire que moi, je ne vais pas, en tant qu'adulte, imposer une discipline, mais que je vais la faire naître. Et on la fait naître en fournissant aux enfants ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est de la connexion, de la relation, donc, et puis de l'autonomie. On va les responsabiliser. On ne peut commencer à les responsabiliser qu'à partir du moment où ils se sentent en sécurité. Or, 109 enfants ensemble, et je ne sais pas, est-ce que c'est dans une pièce fermée ou c'est dans la nature?
Oh bah non, je pense que c'est dans une classe fermée, Omar, non?
Oui, c'est dans une classe, oui.
Alors
c'est bien
ça,
aéré. Hein.
C'est encore plus difficile. C'est-à-dire que quand on est en extérieur, et il y a encore en Afrique un certain nombre de classes qui sont en extérieur, c'est quand même un peu plus facile parce que le son s'en va sur les côtés et tous les enfants sont plus calmes quand ils sont à l'extérieur dans la nature. En revanche, quand on est entre quatre murs, c'est très difficile. Mais, on a besoin de savoir ça.
Pour rebondir sur ce que vous dire, comment ils peuvent faire, Omar, concrètement pour mettre en place des groupes d'autodiscipline? Comment
exactement
ils peuvent faire
des groupes.
Mais comment il fait alors?
Il a besoin de tisser du lien, donc faire de la connexion. Donc peut-être en commençant le matin, on va faire des petits groupes pour que à 5-6, on partage comment je me sens. On va donner des petites consignes aux enfants pour qu'ils puissent partager des choses d'eux-mêmes, se dire des choses positives. On peut dire, par exemple, chacun dit un compliment à son voisin. Et donc, de cette manière, on leur fournit un sentiment de sécurité, qu'ils se sentent en sécurité.
Et de respecter les uns des autres.
Une fois qu'il y a la sécurité, on leur donne un objectif. Voilà, vous êtes 109, l'objectif, il est de pouvoir apprendre aujourd'hui, par exemple, les additions. Et donc, comment on va faire ça? Et du coup, peut-être dans chaque petit groupe, décider qui peut être responsable du petit groupe. Comment vous allez faire dans chaque groupe pour pouvoir faire les exercices, etc., être attentif. Au lieu de se positionner, moi tout seul, je dois maintenir l'attention de 109 enfants, parce que du coup, c'est les 109, ils sont perdus, quoi. On ne peut pas regarder 109 enfants. Pas possible.
Quelle autre astuce ou conseil vous pourriez donner, Héloïse Junier, à Omar, alors, pour gérer
sa classe?
Déjà,
je vous envoie tout mon soutien.
Bravo.
Sur le plateau, on se disait, mais waouh, 109 enfants dans une même pièce, c'est juste waouh, en fait. Je ne sais même pas si moi-même j'y arriverais, donc tout mon soutien, depuis Paris et depuis la France. Déjà, pour compléter ce que dit Isabelle, tout à l'heure, vous parliez justement d'un enfant qui a un comportement inadapté, vous l'isolez face au groupe. En fait, je me disais, par rapport à cet enfant, quand vous avez des élèves qui ont, donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup, il doit y avoir un ou deux, trois élèves peut-être qui ont des comportements vraiment inadaptés, ce que vous pourriez faire, effectivement, l'extraire du groupe, parce que ça peut être intéressant, parce qu'en fait, certains enfants sont très sensibles au stress ambiant, et c'est vrai que 109 élèves dans une même pièce, ça crée beaucoup de stress, beaucoup de stimulation, beaucoup d'agitation, et des enfants qui sont plus sensibles que d'autres à cette surstimulation sensorielle. Donc en fait, l'extraire du groupe, mais pourquoi pas, mais juste au lieu de le mettre ça dans un aspect punitif, le mettre à côté de vous, voyez, donner une mission, le responsabiliser. Et quand il arrive à bien agir, cet enfant-là, donc vous recréez du lien avec lui, et quand il a un bon comportement, enfin que vous trouvez que c'est un bon comportement, et bien vous l'encouragez, vous dites, voilà, c'est génial ce que tu as fait, tu as réussi, tu m'as même aidé en fait à apprendre ça aux élèves.
À le valoriser
énormément. Et en fait, c'est marrant parce que dans les recherches, on voit justement que plus un enfant a des comportements inadaptés et plus on le punit, plus ses comportements vont gagner en fréquence, alors que quand on encourage les comportements qui vont bien, bien. Au contraire, on recrée du lien avec l'enfant. Il est plus cool à vivre, donc ça, c'est tout bénef. Et en plus, du coup, il peut vous aider dans la classe. Mmh. Et en plus, du coup, il a moins de comportements inadaptés. Donc, c'est vraiment...
Bah, voilà, Omar, voilà peut-être quelques conseils dont vous pouvez vous inspirer, en tout cas. Je ne sais pas si ça peut vous donner des pistes.
Oui, bravo. Bon. Je suis content, là.
Ah, bah tant mieux.
Raison pour laquelle je voudrais participer à l'émission. Je savais que vous allez trouver des alternatives.
Eh ben on est ravis si on a pu répondre à voilà, quelques... Et puis bon, on va vous laisser. Vous avez cours, là ? Vous avez cours ?
Ouais.
Vous allez retrouver votre classe. Faites les mini-groupes.
Ils vont être fiers, les enfants, de savoir que vous êtes passés à la radio.
Bon courage,
pour
en
eux,
tout cas.
Pour les aider.
Merci, en tout cas, Omar, pour votre témoignage. Hein. Bonne journée. Bon courage hein, pour tout à l'heure, quand vous allez reprendre la classe. Allez, on part du côté de la RDC.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Et nous sommes encore une fois avec un enseignant. Hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui nous appellent. C'est Fidèle, enseignant et directeur de discipline dans un collège jésuite en RDC. Bonjour Fidèle.
Bonjour Madame Laurence.
Merci d'être avec nous. Alors, vous vous accompagnez, hein, c'est votre spécialité, vous accompagnez les élèves qui ont des problèmes de discipline. Alors, vous avez mis en place un système de cahier de sanctions, hein, c'est ça ? Vous pouvez nous raconter ?
Oui, on a adopté le système de l'accompagnement des élèves sur deux volets.
Oui.
Le premier volet, c'est l'écoute et l'interaction avec les parents. Et le deuxième, c'est les cahiers des points qu'on appelle les cahiers des sanctions qui a sa spécificité. Sa spécificité est que dans les cahiers, nous mettons les différentes infractions que les élèves ont l'habitude de commettre à l'école. Et ces différentes infractions ont leur punition, en quelque sorte, en leur sanction. C'est ainsi que c'est réparti à 100 points. Chaque sanction a ses points. Et alors, si l'élève épuisait ses 100 points, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un élève impossible. On peut penser comment peut-être l'orienter ailleurs. Dans ce sens-là.
Ah oui, d'accord. Donc ça met la pression sur la notion des 100 points. Alors par exemple, imaginons un élève qui dérange la classe, qui provoque des injures, ça lui coûte combien de points ?
C'est moins 10 points.
Moins 10
Mais
points.
Mais avant cela, parce que notre éducation, notre formation allie la douceur et la fermeté. La douceur, ça veut dire tout simplement, on doit écouter l'enfant, savoir c'est quoi les problèmes. Et si on voit qu'il est... récidif, c'est à ce moment-là qu'on peut les retrancher les points en question.
Ah oui, d'accord.
Donc ça...
ouais, le cahier de sanctions, c'est pour quand vraiment vous n'y arrivez plus, après avoir discuté avec eux ou les parents, hein, c'est ça ?
Oui, c'est cela. Alors, si on sanctionnait l'enfant, on l'oblige d'aller à la maison et de donner aux parents les cahiers des sanctions pour qu'ils puissent signer pour voir que l'enfant a récidivé par rapport à une faute qu'il a commise.
D'accord. Mais alors, voilà. Si jamais il a perdu ses 100 points, il se fait exclure du collège ? Comment ça se passe ?
Oui, parce qu'on fait intervenir les parents. Ça veut dire que l'enfant qui ne se laisse pas accompagner par la direction et par les parents, ça veut dire que peut-être sa place n'est pas dans notre école. Alors, s'il épuisait les 100 points en question, on l'oriente ailleurs
ouais.
À la fin de l'année.
Et ça arrive souvent, ça, des exclusions du collège, du coup ?
Pas souvent, surtout pour les élèves des 7e et 8e. Mais les grands savent déjà les systèmes, ça veut dire qu'ils s'adaptent facilement. Et pour cela, à la fin de l'année, on peut peut-être orienter 10 à 12 élèves, tout simplement.
Ouais. Alors, avant de donner la parole à nos invités, j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres types de punitions, nettoyer les classes, les toilettes, faire le résumé d'un livre. Vous pouvez même leur demander d'écrire 1000 fois « Je ne dois plus déranger », si c'est une récidive, hein,
voilà.
C'est ça ? Et ça fonctionne,
ça ? Oui, ça fonctionne très bien. Comme je vous avais dit, qu'on allie la douceur et la fermeté.
Douceur et fermeté.
Si on voit que l'enfant... à partir d'une punition collective, ça veut dire d'une punition de la communauté dans laquelle nous sommes. Et il pourrait peut-être nettoyer les toilettes, par exemple. Comme ça, ça lui fait voir que ce qu'il a commis comme bêtise, ça pourrait impacter soit sur sa formation, soit sur l'environnement dans lequel il se retrouve. Et pour cela, on donne ce genre de punition, quoi.
Est-ce que vous voulez éventuellement poser une question à nos invités fidèles ?
Oui, aujourd'hui, il y a l'évolution de la technologie et les enfants savent très bien leurs droits. Et peut-être ils oublient de plus en plus leurs devoirs. Et selon notre constat est que lorsqu'on parle avec les élèves, pour certains cas, on a comme l'impression qu'ils se penchent plus sur leurs droits que sur leurs devoirs. C'est ainsi que je voudrais poser la question à spécialiste. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme moyen pour qu'ils ne puissent pas avoir toujours cette tentative-là et se justifier au lieu de reconnaître leurs fautes et s'amender quant à ceux.
Vraie question, ça, Isabelle Filioza, pour répondre à Fidèle.
Clairement, pour que les enfants ne rentrent pas dans la justification et qu'ils reconnaissent leurs fautes, eh bien, c'est important que nous cessions de les punir pour des fautes et de penser que les comportements sont des fautes. Et puis, nous avons un devoir en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant qu'accompagnants, en tant qu'enseignants. Et je trouve vraiment très, très dommage de leur transmettre que nettoyer les toilettes, ce serait humiliant et ce serait une punition. Parce que nettoyer les toilettes, c'est une tâche qui est utile, nécessaire à la communauté. Et je trouve vraiment très dommage de dévaloriser cette tâche. Donc, on devrait être attentif aussi au type de punition que nous donnons et à ne pas dévaloriser les choses.
C'est pas forcément dévaloriser. Nettoyer les toilettes, ça sert aussi
d'intérêt
public aussi.
C'est ça. Mais si c'est dans l'idée d'une punition, alors c'est que c'est pas agréable à faire. Et une punition, on inflige quelque chose qui n'est pas agréable parce qu'on croit que le fait de faire quelque chose qui n'est pas agréable va faire réfléchir l'enfant. Mais j'aime bien quand même dans ce que nous dit Fidèle qu'ils essayent en premier l'écoute. Et ça, c'est vraiment essentiel et c'est notre clé. C'est qu'un comportement d'un enfant qui n'est pas en accord avec ce qu'on a dit, qui est une infraction. Infraction, c'est déjà un terme un peu fort. Et en tout cas, c'est important de ne pas dériver sur l'idée que c'est une faute. C'est quelque chose qui n'est pas dans le comportement qui est attendu. Si un enfant n'a pas le comportement qui est attendu, c'est qu'il a un problème, il a un besoin, il y a quelque chose qui n'est pas sous son contrôle. Soit il n'a pas les compétences pour pouvoir réussir, soit il est victime d'un traumatisme. C'est important de mesurer combien d'enfants sont traumatisés parce qu'ils ont subi des coups, parce qu'ils ont subi du harcèlement, parce que ils ont été influencés. Il y a eu de la guerre autour. Ils ont eu peur, ils ont eu honte. Et il y a ce traumatisme, c'est la réaction du corps, du psychisme, lorsque les attaques, les agressions sont trop fortes et ça dépasse les capacités d'adaptation. Donc l'enfant, il est juste débordé par ce qu'il vit. Peut-être ses parents se sont séparés, peut-être il y a eu de la violence, peut-être il a été témoin de violence, même à la télévision. Bref, il y a quelque chose qui est trop dur pour lui, son cerveau.
Certes, mais l'enseignant ne peut pas tout régler non plus. Hein,
mais
c'est sûr.
Il ne peut pas tout régler, mais justement, en fait, le problème, et c'est ce que disait Héloïse tout à l'heure, c'est que plus nous allons punir, plus nous allons aggraver les choses. En fait, on retraumatise sans cesse l'enfant. Donc, la première voie, Fidèle, et la première voie, c'est celle de l'écoute. Et peut-être, si on écoute véritablement, et pourquoi un enfant comporte comme il se comporte, c'est ce que nous a dit Fidèle, c'est essentiel. Répondre à ça, là, on a des chances de l'aider à se comporter différemment.
Et de toute façon, Fidèle, c'est ce que vous me disiez. Hein. C'est avant tout l'écoute, hein, avant le cahier de sanctions. Hein.
C'est ça.
Hein, Fidèle.
Oui.
Ouais.
On les écoute d'abord et c'est pour cela qu'on convoque souvent les parents pour parler un peu avec eux.
C'est ça.
Si on voit qu'il y a quelque chose de louche qui ne marche pas dans la vie de l'enfant, quoi.
C'est ça. Et Louise Junier, peut-être un petit conseil ou une réaction au témoignage Fidèle.
Alors, je pense que c'est effectivement assez difficile d'avoir ces enfants qui ont des comportements comme ça, qui mettent en difficulté la communauté éducative, les adultes, les autres enfants. Je pense que des fois, en fait, on arrive dans un rapport de force, une espèce d'impasse où tout le monde, en fait, y perd des plumes et tout le monde se sent un peu mal à l'aise. Et je pense que l'une des premières priorités, moi, que je verrais comme ça, alors sans connaître la réalité du terrain, mais ce que j'entends de votre témoignage, ce serait peut-être déjà de réduire le rapport de force avec l'enfant. Parce que plus l'enfant est enfermé dans un rapport de force, dans une image d'enfant, avec des comportements qui ne vont pas, plus, en fait, ça va augmenter la fréquence de ces comportements-là. Donc, déjà, je pense qu'au niveau des adultes, au niveau des enseignants, à votre niveau aussi, peut-être au niveau de ses parents également, ça pourrait être intéressant de le percevoir autrement. C'est-à-dire peut-être juste des fois de lister ce qui va bien. Genre, qu'est-ce que fait cet enfant de bien? Bah, moi, une fois, ça m'arrive des fois en consultation avec des enseignants ou des parents de dire, bah, allez, on prend une feuille et on marque tout ce que l'enfant fait de bien. Ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça aussi. Et des fois, en fait, on se donne des idées, d'ailleurs, les uns les autres. Et en fait, après, on se dit, OK, on va se faire une promesse. Tout ce qu'il fait de bien, ben, on va lui dire dès qu'il le fait vachement bien. Et en fait, plus on va lui dire quand il fait des choses de bien, plus ça va augmenter ben, la probabilité qu'il fasse des choses de bien. Mmh. Donc vraiment, recréer du lien. Et puis, quand il agit pas comme on voudrait, on va se demander, mais pourquoi, à cet instant précis, il n'agit pas comme on voudrait? Et donc, c'est vrai que pour revenir sur les cahiers de sanctions, moi, j'aurais plus mis un cahier, genre un cahier en place, un cahier de, je sais pas, genre de d'étoiles ou un truc positif, un cahier de, enfin, en gros, de conduite, de bonne conduite. Et en fait, dès qu'il fait un truc de bien, bah, on va le mettre dans le cahier pour vraiment renforcer l'idée et éviter de mettre toujours l'accent sur ce qui ne va pas. Donc, vraiment recréer du lien avec le jeune et lui faire confiance et pour qu'il ait un potentiel d'évolution.
En tout cas, merci beaucoup, Infidèle, pour votre témoignage hein, du côté de la RDC. Voilà, d'autres éclairages, hein, pourquoi pas. Merci en tout cas pour votre témoignage. On a un appel de Paris cette fois-ci. C'est Vico qui nous appelle. Bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour à vos invités.
Merci d'être avec nous, vous êtes directrice d'un centre de loisirs à Pantin, en banlieue parisienne. Alors, comment les animateurs travaillent, à la fois parce que c'est les parents et les enfants hein, quand même, hein, lorsqu'on travaille dans un centre de loisirs. Vous avez des débats, vous, entre vous, la place de la bienveillance, la psychologie, comment ça se passe?
Alors écoutez, pour tout vous dire, nous on met en place avec les enfants dès le début de l'année les règles de vie, tous ensemble. C'est vraiment à l'initiative des enfants. Et quand ces règles ne sont pas respectées, on a mis en place une pratique un peu originale, bienveillante, vous me direz. Mais en tout cas, on fait des punitions parents-enfants.
Des punitions parents-enfants, c'est-à-dire?
Exactement. Alors, le principe est simple. Quand un enfant, parce que moi j'accueille des enfants de 6 à 8 ans, oui. Donc ce n'est pas des grands, hein, c'est des petits, premier cycle, et en fait, ils se mettent en danger, ils peuvent mettre en danger les autres, il y a énormément d'insultes, il y a énormément de cas d'agressivité verbale ou physique, et quand la chose se répète et que la règle de vie est enfreinte de façon répétitive, on fait venir le parent. Et on fait venir au bureau. Et donc avec moi, c'est moi la directrice, donc c'est moi qui vais rencontrer et l'enfant. Ils vont avoir 20 minutes pour réfléchir ensemble, parents et enfants, à trois solutions pour faire différemment. Voilà ce qui s'est passé. Avec maman, avec papa, avec grand-mère, vous allez réfléchir à comment faire pour trouver des solutions, une alternative bienveillante à cet acte que tu as posé. Et du coup, moi, ça me permet de me mettre dans une position d'observation, où je vais regarder un peu l'échange, les regards, le ton employé, si l'enfant a sa place, s'il peut parler ou pas du tout, si le parent monopolise la conversation, si il y a des éclats de voix aussi entre eux, ou alors si ça se passe très bien, s'ils arrivent à communiquer. Et ça, ça va nous permettre après avec l'équipe de mettre en place des cafés parents sur la gestion des émotions, sur se mettre au travail dans le calme, sur on n'insulte pas, on dit la chose différemment. Sans passer par l'insulte. Et ça, je veux vraiment que les parents soient acteurs de ce travail-là et qu'ils puissent le voir aussi changer à la maison, leur enfant. Voilà ce qu'on a mis en place. Les punitions parents-enfants.
En tout cas, ça fait sourire. Ça fait sourire
c'est
nos invités.
C'est excellent.
Mais voilà, c'est excellent, dit Isabelle
Filosa. Ah oui, je suis très impressionnée. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée parce que ça engage le parent et ça ne met pas l'enfant en défaut d'être ballotté entre l'école et puis je suis humiliée aussi à la maison, etc. Et ça fait changer le système. Parce qu'en fait, l'enfant, quand il déborde, là, j'entends qu'il y a beaucoup d'insultes, de langage. Peut-être il le prend aussi à la maison. Donc, c'est que ce soit... tous les adultes, tout le monde va réfléchir ensemble.
Co-acteur.
Et c'est ce mot « ensemble ». On rétablit de la connexion, on rétablit de la relation. On ne permet pas à ce que l'enfant se fasse punir de nouveau à la maison pour mauvais comportement. On fait les choses autrement et on enseigne une autre façon de faire aux parents. Et donc, chapeau.
Chapeau, dit Isabelle Filiosa. Que dit Héloïse Junier?
Alors, de même, hein, je trouve super cette idée de co-construire des solutions comme ça, faire une transition du pont entre la maison et le centre de loisirs, c'est vraiment très chouette. Alors moi, j'aurais pas pris le terme punition. C'est vrai que le terme punition, on nous a fait sursauter sur le plateau. Vous l'avez pas vu, mais notre corps y était. Moi, j'aurais plus mis, au contraire, c'est une opportunité de partage, de discussion, d'échange. Au contraire, je verrais plus ça comme un moment très positif. Parce que si on parle de punition, j'ai peur que les parents y aillent à reculons.
Bah, ils y vont à reculons ou pas, Vico, ou pas. Où ils jouent le jeu?
Ils y vont. Alors, ils sont obligés de jouer le jeu parce que c'est dans la charte d'inscription des enfants. Et donc, tout de suite, ça les alerte un peu et ça leur donne envie de venir. Et quand ils se rendent compte de
par curiosité.
Ouais, exactement. Mais vraiment, en plus, ils vont venir et après, ça les apaise. Ouais. Et après, ils reviennent plus facilement. C'est vrai. Parce que quand on leur disait c'est une discussion, il n'y avait personne.
Ou
un temps bonus, hein, je sais pas, un temps.
Ah, mais non, ils viennent. Je disais, comment ça, en tant que parent, j'allais être punie.
Cette punition, ça fait ça que ça me moque. J'ai peur, en fait, qu'ils investissent l'enfant aussi, le temps, comme il y a un peu négatif, s'il est estampillé, punition. Mais en tout cas, après, c'est vrai que l'idée, après, de demander à l'enfant s'il est OK pour avec toutes les pistes d'intervention, ça peut être intéressant aussi.
Bon, bah écoutez, Vico, en tout cas, on va être en contact avec nos invités.
Ah oui, volontiers.
Merci beaucoup et belle journée du côté de Pantin. Il nous reste 30 secondes. S'il y avait d'un mot, un petit conseil à nos auditeurs tristes parents, ce serait lequel ?
Alors moi, je dirais faites au mieux. Faites au mieux. On sait que ce qui est idéal pour l'éducation, c'est tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Dans la vraie vie, on sait que c'est compliqué d'élever un enfant avec ses émotions, donc faites au mieux.
La relation. En premier, comment je suis bien avec moi-même et du coup, j'aime mon enfant. Je m'aime, moi, en tant que parent, et j'aime mon enfant. La relation.
Isabelle Filioza, votre dernier livre, Éduquer, tout ce qu'il faut savoir chez Robert Laffont. Héloïse Génier, votre BD avec votre comparse mademoiselle
Caroline.
Les émotions de l'enfant, 7 jours pour mieux comprendre, aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Allez, on se quitte avec les Brésiliens, Rilson, Moulou et Rachel Raïs. C'est Bateu sur RFI. Quanto tempo tem que só tem nós dois? Quando o dia é frio, só me vê você. Mas não rola breu, chuva quente sim. O teu cheiro é meu, brisa boa e eu quero um beijo teu. Coube direitinho, encaixou certo. We'll be right back. Allez, on se retrouve demain à la même heure pour 8 milliards de voisins et de voisines. Merci à Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. Demain, on parlera des couples mixtes et des enfants métis. Est-ce que c'est devenu banal ou est-ce que ça reste compliqué? On en parle demain. Belle journée à vous.
8 milliards de voisins, c'est fini.